Bonjour. C'est beaucoup d'émotions déjà d'être parmi vous, parce que vraiment on est content d'être avec vous. Voilà, après il y a des émotions qui se surajoutent à celles de la joie d'être avec vous, et ça crée un excès d'émotions, et donc. Les excès d'émotion se manifestent par des larmes. Mais nous ne sommes pas censés vivre par nos émotions. Le Seigneur nous a donné la possibilité des émotions, la capacité de nous émouvoir, et c'est bien. Mais nous sommes censés vivre au contact de la réalité, de la vérité. Et c'est seulement la vérité qui nous donne la vie. N'est-ce pas? C'est VV. La vérité nous donne la vie. C'est pas Volkswagen. Et ce matin, en fait, ce matin, se poser la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars et puis voilà, c'est tout? Ou est-ce que je reste quand même pour la prédication? Et la question qui m'est venue tout de suite après, mais c'est pourquoi tu prêches? Et c'est la question que je vous pose à vous aussi. Pourquoi vous prêchez? Et là, je ne parle pas des gens qui viennent au micro. Je parle de chacun d'entre vous. Lorsque vous adressez la parole à quelqu'un et que vous prêchez, c'est ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous le faites? Alors moi, j'ai ma réponse. Ma réponse, c'est parce que je veux que tout le monde me dise, ouais, c'était super, t'as vraiment bien prêché. Non, la réponse, c'est je veux que les gens vivent. La prédication, c'est fait pour que les gens vivent. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions tous sortir vivants de cette salle, quel que soit le destin de nos enveloppes charnelles. Alors si vous pouvez tourner avec moi dans l'évangile de Jean. Je vais essayer de rester digne, mais c'est pas toujours facile. À partir du chapitre 3, à partir du verset 11. Et je vais lire jusqu'au verset 21. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. C'est un texte qui vient tout de suite après l'entretien que Jésus a avec Nicodème. N'est-ce pas? C'est la suite, en fait, de l'entretien. C'est que Jésus a parlé à Nicodème. Et vraisemblablement, il n'était pas seul avec Nicodème. Il y avait sans doute avec Nicodème des gens. Puisque Jésus s'adresse à lui. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Et si vous reprenez le passage avec Nicodème, vous voyez qu'au verset 2, Nicodème dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Nicodème est sans doute là avec plusieurs, et Jésus s'adresse à lui et aux autres également. Et il s'adresse à nous également. À la lecture de ce texte, je ne sais pas si vous avez noté, n'est-ce pas, lorsque Jésus dit « en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons. » Merci Léonie, c'est gentil. « Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? » Dans le début de l'évangile, Paul l'a cité tout à l'heure. N'est-ce pas ? Jean-Baptiste dit alors, j'essaie de retrouver ces gens. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et avant, au tout début du chapitre, il est dit, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent en lui. Et si vous allez dans l'évangile de Jean au chapitre 20 et au verset 30 et 31, il est dit que tout ce qui a été écrit dans l'évangile de Jean l'a été écrit afin que ceux qui le lisent croient. Et Jésus parle à Nicodème et lui dit, mais si vous ne croyez pas, lorsque je vous parle des choses terrestres, il vient de lui parler de quoi? De la nouvelle naissance. Il vient de lui expliquer que l'homme doit naître de nouveau. Et Nicodème n'a pas compris, ou était incrédule, ou ils étaient un peu incrédules. Comment croirez-vous lorsque je vous parlerai de choses célestes? Et ensuite, il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et à la lecture de ce texte, on pourrait se dire, mais donc le salut, ce serait une sorte d'attraction vers la lumière. Ce serait quelque chose qui, on est attiré vers la lumière plutôt que vers les ténèbres qui représentent Satan, et la lumière représente Christ. Et la question qui se pose alors, c'est comment vous et moi, nous pouvons recevoir ce témoignage? Parce que Jésus dit, vous ne le recevez pas. Peut-être que certains d'entre nous l'avons reçu. Peut-être que nous ne l'avons pas reçu. Je ne sais pas finalement. C'est une question qui se pose à chacun d'entre nous. Et parfois, nous avons besoin de nous asseoir et de nous dire, mais est-ce que j'ai reçu ce témoignage? Ensuite, il dit, Moïse éleva le serpent dans le désert. N'est-ce pas? Il y a une sorte de... Il fait référence à des choses, et comme c'est presque toujours le cas dans les évangiles, les gens ne comprennent pas vraiment de quoi parle Jésus. Je ne sais pas si vous avez lu ça, mais véritablement, les gens ont compris après, quand le Saint-Esprit est venu. Pour le reste, c'était un peu... Il est bizarre. Il dit des trucs, on ne comprend rien, il fait des trucs, c'est magnifique, mais il est un peu, il est particulier quand même. Il n'est pas rationnel et logique comme nous pourrions l'être. Il parle, il fait référence au passé, mais quel rapport avec le présent? Et ça, c'est tout, c'était le cœur de Jésus, n'est-ce pas, de rapprocher le passé, au présent qui était en train de se dérouler. Que les hommes et les femmes qui le croisent fassent la jonction. Nous, on a fait une séparation entre l'ancien et le nouveau. Mais en réalité, ce que Jésus vient faire, c'est la jonction. N'est-ce pas? Il était lui la loi. Il était lui la parole qui a créé. Il était... celui qui était à l'origine de toute chose. Et il ne pouvait pas se dire, ah non, mais là-bas c'était ancien, et là maintenant c'est nouveau, donc je me renie de ce que j'étais avant pour vous présenter autre chose qui est plus plaisant. Non, il était la jonction. Et ce qu'il souhaitait, ce n'était pas impressionner les gens par les miracles, mais c'était leur donner les véritables clés du salut. En se présentant lui-même comme l'agneau qui ôte le péché du monde, en tout cas en étant présenté comme ça par Jean-Baptiste, mais en étant lui l'agneau, et en préparant les cœurs pour qu'ils comprennent ce dont il s'agissait. Et qu'est-ce que nous devons comprendre alors? Vous ne recevez pas mon témoignage. Ça veut dire quoi, Jésus? Ça veut dire que nous devons recevoir la bonne information sur toi. N'est-ce pas? Et si vous lisez les évangiles, c'est un peu... Les gens étaient à la recherche de quelque chose. C'est quoi les infos sur Jésus? Où il est? Qu'est-ce qu'il fait? Et ils lui couraient après pour les voir les miracles, voir la dernière multiplication des pains. N'est-ce pas? C'était un peu un moment particulier. Ou alors, à écouter Jésus, que fallait-il comprendre d'autre? Qu'il fallait qu'il nous arrive un malheur pour que nous soyons sauvés. N'est-ce pas? Puisqu'il fait référence au serpent dans le désert, ce peuple qui avait désobéi, qui mourait. Et lorsqu'ils levaient les yeux vers ce serpent, eh bien, ils étaient sauvés. Donc, la question c'est, mais est-ce que il nous demande d'être... des bons connaisseurs de Jésus-Christ? Ou est-ce qu'il nous demande d'entrer en crise, c'est-à-dire de vivre des choses terribles pour que je sois sauvé? Puisque, n'est-ce pas, c'était une crise qu'a vécu le peuple d'Israël dans le désert. C'était la mort qui les touchait et ils étaient sauvés en regardant le serpent. Est-ce que ces choses-là sont l'accès à la foi, l'accès au salut? Ou est-ce que peut-être ça nous empêche d'arriver au salut? Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas sauvés. N'est-ce pas? Si on prend le terme générique de chrétien, du christianisme, de la chrétienté, il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, et qui ne sont pas sauvés. Alors, je ne vais pas vous donner les noms parce que je ne les connais pas. Et finalement, ça ne m'intéresse pas de le savoir. Ce qui m'intéresse, c'est que ceux qui ne sont pas sauvés et qui entendent puissent entrer dans le salut. La parole de Dieu nous dit même que il y a des gens qui seront au bénéfice des miracles de Christ. À certains même, il sera donné le pouvoir d'accomplir des miracles en son nom et ils ne seront pas sauvés. Vous vous rendez compte? Nous, on n'a même pas ce pouvoir de faire des miracles. Mais certains feront des miracles. Et le jour venu, Jésus leur dira, « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Et il y a des croyants sincères qui cherchent Dieu, qui cherchent Jésus parce qu'ils veulent recevoir un conseil de sa part. Ils veulent que Jésus leur donne le bon conseil pour la vie éternelle. Et si nous pouvions aller dans Matthieu au chapitre 19, verset 16, je vais vous lire une histoire que vous connaissez très très bien. Mais comme souvent, ce sont les choses que nous connaissons très très bien dont finalement nous perdons le sens profond. Et cette histoire, c'est l'histoire de celui qu'on appelle le jeune homme riche. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, mon bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? Et il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a qu'un seul bon, c'est Dieu. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ? » Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, et tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Mon bon maître, nous pouvons prier comme cela, n'est-ce pas ? Nous pouvons dire à Jésus, tu es un bon maître. Et ce jeune homme savait que Jésus était la personne qu'il fallait venir voir. Il en était convaincu. Il était convaincu que Jésus avait les clés de son salut. Et il va le voir et il lui dit, « Mon bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit, mais observe la loi. Et il dit, mais ça, c'est ce que je fais. Je le fais déjà. Alors, Jésus lui dit, si tu veux être parfait. Vous notez la différence? Le jeune homme lui dit, qu'est-ce que je dois faire de bon pour être parfait? Pour avoir la vie éternelle, Jésus lui répond, « Si tu veux être parfait, Jésus ne nous demande pas de faire les bonnes choses. Il nous demande d'entrer dans la perfection des choses. Parce que la perfection, c'est lui. C'est la loi matérialisée en lui à l'époque et qui est aujourd'hui dans notre cœur. N'est-ce pas? Quand Jésus dit « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir la loi », il est venu dire « Je suis venu prendre en charge cette loi en moi comment on dit ça ?» encapsuler cette loi en moi, et ce moi, eh bien, vous le recevez en vous. Et c'est ça la perfection. C'est pas, n'est-ce pas, que on va faire un sans faute jusqu'au bout. Pourquoi pas? Mais en tout cas, il ne parle pas de ça à ce moment-là. Mais la perfection, c'est de recevoir celui qui est parfait. Et pour cela, eh bien, il faut se délester de ce qui est imparfait. Et Jésus lui dit, en fait, il lui donne le bon conseil. Mais en fait, c'était le seul conseil que ce jeune homme ne voulait pas entendre. Donc, il était prêt à parier à 99,9% que Jésus avait la clé pour son salut. À une exception près, c'est qu'il n'était pas prêt à lâcher son bon trésor. Et la question qui se pose à nous, bien entendu, est-ce que j'ai lâché mon bon trésor. Vous comprenez que vous pouvez arriver aussi proche de Jésus que cela. Parce que Jésus ne vous repoussera pas si vous venez lui demander un conseil. Bien entendu. Vous pouvez arriver à proximité de lui et lui demander tous les conseils du monde. Et il vous les donnera. Et après, il vous demande de faire une chose. Il faut te délester de ton bon trésor. C'est moi qui rajoute bon. Parce que finalement, lorsqu'on a tout lâché, lorsqu'on a tout fait, mais qu'il reste encore une seule chose, eh bien c'est celle-là que Jésus nous demande. Cette chose-là. Et si cette chose n'est pas donnée, eh bien, le jeune homme s'en va, tout triste. C'est-à-dire que Jésus ne peut pas le recevoir. Jésus ne peut pas le prendre avec lui comme étant un de ses disciples, puisque c'est ce qu'il l'invite à faire, n'est-ce pas ? Vends tout ce que tu as. Alors, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Suis-moi, c'est ce qu'il a dit à chaque fois qu'il a appelé ses disciples. Et vous ne le retrouverez pas ailleurs. Donc, il proposait un poste de disciple à ce jeune homme. Et ce jeune homme n'a pas pu prendre le poste. Non pas que Jésus lui a dit, ah ben non, t'as pas les compétences, t'es pas qualifié pour. Jésus lui a rien dit. Jésus lui a dit ce qu'il fallait faire. Il lui a dit, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste. Jésus ne l'a pas disqualifié. Il ne lui a pas dit, mais t'es à moins que rien, tu ne comprends rien et tu ne peux pas me suivre si tu fais comme ça. J'ai besoin de gens qui ont tout compris. C'est le jeune homme qui est parti. Il s'est éloigné du Seigneur Jésus, qui pourtant lui montrait la porte, lui donner la clé pour la vie éternelle. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je ne suis pas riche. Moi je n'ai pas beaucoup de biens. Je n'ai pas un compte en banque bien garni. J'ai d'ailleurs, je n'ai rien en fait. Je ne possède rien. J'ai une voiture qui est en train de mourir. J'ai une maison qui est en train de tomber. Et je n'ai rien. Et en plus, je suis un peu dépressif. Jésus dit, vends ce que tu possèdes. Ce que tu possèdes, c'est quoi? Si tu n'as rien, qu'est-ce que tu possèdes alors? Ton propre corps? Tes pensées? Tout ce qui t'appartient est avant tout en toi. N'est-ce pas? Nous sommes une enveloppe charnelle, mais les choses importantes sont situées quelque part là, dans notre intelligence, dans nos pensées, dans la façon dont nous envisageons le monde, les autres, le service pour Dieu, mais surtout l'idée que nous nous faisons de qui est Jésus-Christ. Et c'est là ce qu'il est en train de lui dire. Tout ce que tu as, c'est aussi tout ce que tu crois. Il y a même des gens qui croient en leur dépression. Parce qu'une dépression, ça amène des bénéfices. Une dépression, ça amène, n'est-ce pas, de l'attention de la part des autres, de la part du médecin. Et quelque part, ça peut être un projet de toute une vie que la dépression. C'est connu que dans des couples, par exemple, où l'un est chrétien depuis longtemps et l'autre pas, eh bien lorsque tout d'un coup le mari ou la femme vient au Seigneur, eh bien le croyant fait une dépression. Parce que on s'occupe plus de lui. On ne s'occupe plus de lui parce que la situation maintenant est claire. Et tout le monde est heureux, n'est-ce pas? Vous comprenez qu'en nous, il y a des jeux un peu vicieux dans nos esprits qui se déroulent. Et si vous n'avez pas de richesse, ou si vous avez des richesses en plus de vos pensées, eh bien c'est de ces choses-là dont il faut se débarrasser. Parce que c'est ce qui fait barrage à la pensée de Dieu. C'est ce qui fait barrage à la foi. Et c'est pour cela que Jésus lui dit, va vends tout ce qui est une entrave et suis-moi. Donc, le conseil, c'est véritablement quelque chose que Jésus est prêt à nous donner. Mais en soi, la croyance en Christ de ce jeune homme ne peut pas le sauver. Il n'est pas prêt à se détourner de son ancienne vie, de son trésor, ce qui l'empêche réellement de devenir un disciple de Jésus, ce n'est pas Jésus lui-même, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de son cœur. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. C'est ce que Jésus dit. Ce jeune homme n'a pas reçu le témoignage de Christ. Alors, Jésus, dans ce passage nous dit, mais voilà, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et la question qui se pose avec ce texte, c'est mais alors est-ce qu'il faut que je sois en crise? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un cataclysme, un tremblement de terre ou quelque chose de terrible ou une persécution pour que j'obtienne le salut? Est-ce que c'est ça qui va permettre que j'obtienne le salut? Il y a des croyants qui marchent avec Jésus tous les jours. Quand je mets croyant là, je mets avec un petit C. Ils le connaissent bien parce qu'ils vont à l'église tous les dimanches. Ils vont même à toutes les réunions dans la semaine. Et même ils prient régulièrement. Ils peuvent vous parler de sa vie, de son œuvre. Ils vous diront quels sont ses plats préférés. N'est-ce pas? Les disciples pouvaient vous dire que Jésus aimait bien le poisson grillé sur le bord du lac de Génézareth. Et ils vous diront même qu'à un moment donné de leur vie, eh bien, ils ont été capables de chasser les esprits mauvais et de guérir les malades. Ça, vous le lisez dans Matthieu 10, au verset 1. N'est-ce pas? Jésus souffla sur les disciples et il les envoya pour chasser les esprits et guérir les malades. Mais un jour, ces mêmes croyants sont au milieu d'une terrible épreuve. Et si vous allez avec moi dans Matthieu, au chapitre 8, encore un autre passage extrêmement connu. Vous voyez qu'il y a là des croyants qui font face à une situation désespérée. Et ils se rendent compte que le Jésus qu'ils connaissaient si bien est en train de dormir. C'est-à-dire qu'il n'est pas avec eux. Il n'est pas solidaire. Il fait bande à part. Il dort. Verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples, s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous ! Nous périssons !» Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci » disait-il, « à qui obéissent même les vents et la mer ?» Et si vous lisez le chapitre 8 à partir du début, vous dites, mais ils sont fous, ces disciples. Jésus n'a fait que des miracles. N'est-ce pas? Il a guéri un lépreux, en premier. Ensuite, il a guéri le serviteur du centenier. Il a... voilà. Et après, il est dit... il a guéri la belle-mère de Pierre. Et ensuite... Verset 16, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Il venait de voir tout ça. Il venait de voir la puissance de Dieu à l'œuvre comme jamais. Et arrive une tempête. Et ils sont désespérés. Nous périssons. Et Jésus dort. Lorsque nous faisons face à une des plus grandes tempêtes de notre vie, il est probable que Jésus dorme. Je sais qu'on a l'habitude de se consoler en disant « Oui, non, Jésus est à l'œuvre, il est avec nous, il est en plein dans la situation et il nous soutient, il nous aime, il ne nous lâchera pas. » Mais ce n'est pas le témoignage des disciples là. Jésus, il est où? Mais il dort! Mais allez le réveiller, on est en train de mourir. Oui, mais vous êtes les marins, c'est vous les marins. C'est vous qui savez conduire un bateau. Oui, mais là, on ne peut pas. Il dort, c'est pas normal. Réveillez-le. Il a fait tous ses miracles avec nous avant et maintenant, il dort. Quand on lit ce texte, on se dit, mais comment ça se fait? Franchement, les disciples n'auraient pas... Ils étaient un peu craintifs, quoi. C'est étonnant, quand même. Parce que nous, on est peut-être un peu courageux. Peut-être qu'on aurait dit, ah ben moi, je... Voilà, je... Jésus dort. Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et il dort. Mais c'est terrible cette scène. Parce que la tempête était sans doute une tempête comme les disciples, en tout cas les marins là qui étaient là, n'en avaient jamais vu. Et donc ça les a mis dans un état où ils se sont dit, là on ne peut plus gérer. On ne peut plus gérer. Et le pauvre Jésus, il va se noyer si on ne le réveille pas. Et Jésus se réveille. Jésus se réveille. Et quand je lis ce texte, je me dis, mais où sont nos pensées? Où sont nos façons? Qu'est-ce que nous faisons, nous? Comment est-ce que nous envisageons la vie et l'Église? Parce que Jésus, il ne se relève pas les manches pour aller bosser, pour aller tirer sur les cordes. Et pourquoi avez-vous peur? Et là, vous avez juste envie de nous prendre là par le cou. Il dit, mais tu ne vois pas qu'on est en train de mourir? Et il vous dit, mais pourquoi avez-vous peur? Quelle est notre première pensée lorsque vient le cataclysme, lorsque vient la crise? Qu'est-ce que je peux faire? Et c'était la pensée des disciples, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut gérer tout ça? Là, ça commence vraiment à souffler fort. Comment est-ce qu'on peut faire? Et Jésus nous ramène dans le domaine qui est le sien. C'est le spirituel. Il est sur terre et à la fois dans le ciel à ce moment-là. Et il nous ramène dans ce qui est l'essentiel. C'est spirituel. Ces choses-là se dominent non pas par la force humaine, mais par la puissance de Dieu. Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Après tous les miracles que nous avons vus, que tu as faits, sauve-nous, nous périssons. La peur de la mort, la peur de ne pas pouvoir s'en sortir, la peur de ne pas voir l'avenir, de ne pas pouvoir discerner ce que nous allons faire, peut nous mettre dans ces états-là. Et Jésus, tout en nous disant « gens de peu de foi », va intervenir. Il va venir calmer la tempête. Il va faire le travail. Et, n'est-ce pas, c'est réjouissant parce que, voilà, la foi n'est pas au rendez-vous. Mais moi, je suis là quand même. Moi, je suis là quand même. Et je m'occupe de cette situation. Mais n'est-ce pas, terrifié par ce qui nous arrive, eh bien, nous nous précipitons pour demander le secours de Jésus. Et là, les disciples demandent ce secours parce qu'ils ont peur. Et ils ont peur de quoi vraiment? Ils ont peur de mourir. En fait, ils ont peur de ce qui les attend là de façon imminente, c'est la mort. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas de ce qui se passe, ce qui se passera à ce moment-là pour eux. Ils ne savent pas. Et quand ils disent nous périssons, c'est pas juste une façon de dire c'est la galère. C'est nous sommes véritablement sur le point de mourir et nous ne savons pas ce qui va nous arriver lorsque nous serons entrés dans la mort. Et ce qui les terrifie réellement, c'est ça. Est-ce que vous savez si dans une seconde vous mourrez, ce qui va se passer après? Si vous ne le savez pas, alors il vaut mieux pour vous d'être terrifié maintenant. N'est-ce pas? Le problème de après la mort n'est pas réglé. Et ce qui est dramatique dans nos sociétés, c'est que nous n'entendons pas Jésus nous faire ce petit reproche, gens de peu de foi. Et il vient et il calme les tempêtes, parce que c'est son caractère que de calmer les tempêtes. Mais ce qu'il veut, c'est nous faire comprendre que le après doit être réglé. À ce stade, nous pouvons dire que ni la croyance en Jésus, ni la crise, la tempête, ne nous empêche d'accéder à Christ, bien au contraire. Et les uns peuvent chercher conseil auprès de Christ. Et les autres peuvent chercher secours auprès de Christ. Et Christ va les accueillir. Il va les recevoir. Mais la connaissance dans les vérités fondamentales, la connaissance même du secours de Christ n'est pas suffisante. C'est pas suffisant pour le salut. Ce qui manquait au jeune homme riche et aux disciples, eh bien, c'était véritablement de croire qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était Dieu. C'est ça qui leur manquait. Et ce n'est pas vraiment étonnant si nous nous plaçons dans le contexte de l'époque, puisque le Saint-Esprit n'était pas encore donné. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc de ces choses. Mais n'est-ce pas, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de voix. Le Saint-Esprit est la voix de Dieu. Mais le monde qui nous entoure nous propose un certain nombre d'autres voies, avec un X. que l'on entend, des planches de salut que l'on va chercher, des choses qui nous permettent de nous maintenir à flot pendant un certain temps et jusqu'à la prochaine crise ou jusqu'au prochain conseil que nous aimerions avoir de Jésus. Mais Jésus n'est pas un prophète. Il est aussi un prophète. Mais il n'est pas un prophète comme il y en avait dans l'Ancien Testament. Il n'est pas non plus un guerrier. Il est aussi un guerrier. Mais il n'est pas le guerrier, celui qui vient à votre secours avec une lance pour vous préserver de toutes les attaques lorsque vous n'allez pas bien. Vous comprenez? Il est toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas ça qui fait Christ. Ce qui fait Christ, ce qui fait qu'il est le Messie, c'est qu'il est capable de vous rendre, de me rendre parfait. Et c'est sa perfection qui nous sauve. Et cette perfection, eh bien, la demande qui est faite, c'est que nous croyons qu'il est véritablement Dieu. Je vais répéter. C'est que nous croyons qu'il est véritablement Dieu. Quand vous pensez à Dieu, vous pensez à quoi ? Vous comprenez que les choses finalement se situent dans notre intelligence. C'est l'intelligence du cœur, bien entendu. C'est pas juste la pensée, la réflexion, mais c'est tout notre être entier. Une fois que nous nous sommes délestés de tout ce qui nous empêche d'accéder à ce trésor qu'est Christ, eh bien, nous pouvons toucher du doigt le salut. Et lorsque nous touchons du doigt le salut, nous sommes emmenés dans le salut. Ce qui manquait au jeune homme riche et aux disciples, c'était la confiance en Christ, comme étant le Messie. Cette confiance qui vient du cœur et qui est en action, qui se met en action avec notre volonté et qui déclare que désormais, il est le centre de notre vie. Et là, je dis quelque chose que je dis souvent, le centre de notre vie, ce n'est pas celui qu'on met à la première place, c'est celui qui prend la place. N'est-ce pas ? C'est l'entraîneur d'une équipe de foot qui vous donne vos places. Donc si vous, vous donnez la première place à Jésus, ça veut dire que vous êtes son entraîneur. Vous êtes celui qui lui dit où il faut se mettre. Et Jésus ne veut pas ça. Jésus veut que vous descendiez de votre place et que vous lui laissiez le trône de votre vie. Et quand je dis ça, c'est vital. C'est pas optionnel. C'est ce que Jésus a dit au jeune homme riche. C'est vital. Tu ne peux pas juste vouloir me mettre à la première place et ensuite faire ce que tu veux. Tu me mets au sommet, tu me mets dans ta tête, à ta tête, et tu fais en fonction de ce qui est dans ton cœur. Et ce qui est dans ton cœur, c'est ce que moi j'y mets. Frères et sœurs, ça c'est des mots, mais ces choses doivent être senties et vécues. Elles doivent être notre quotidien, parce qu'il n'y a que par ces choses-là que nous sommes réellement en vie. Je suis un peu Comme d'habitude, je suis en retard. Alors, pour résumer, si Jésus est juste un bon enseignant pour nous, un bon conseiller, eh bien, nous pouvons venir à lui, mais il ne pourra pas nous sauver sur cette base-là. Si Jésus est pour nous un homme providentiel, il pourra nous aider. Il pourra nous sortir du pétrin, mais il ne pourra pas nous sauver sur cette base-là seule. Mais si vous croyez, et ça me fait bizarre de vous le dire parce que je sais que vous le croyez, mais en même temps, quand je dis croire, c'est pas au sens croire dans la tête, croire avec les connaissances, si vous le croyez à salut, c'est-à-dire si vous le vivez en vous, qu'il est le Fils de Dieu lui-même, le Saint-Esprit, alors il peut vous sauver sur cette base-là. La foi, ce n'est pas un effort à faire. Comment expliquer la foi? Mais c'est laisser Christ vous envahir. C'est laisser la pensée de Christ vous envahir complètement. Pour qu'il vous montre son amour. Et ce qui est nécessaire, c'est que la mentalité change pour cela. Que notre avis sur Jésus change. N'est-ce pas? On peut le voir comme conseiller, on peut le voir comme le grand homme providentiel, on peut le voir sous d'autres facettes encore. Mais il n'y a qu'une façon de le voir qui nous sauve, c'est celle du Fils de Dieu. La foi a un effet qui est immédiat. Elle me fait me repentir. Je ne dis pas qu'on est sauvé par la repentance. Mais je dis que, intimement lié à la foi en Christ, vient la repentance. Et si la repentance n'est pas présente, alors vous pouvez douter que le caractère de Christ est véritablement en vous. Pour conclure par rapport à ce texte, Jésus dit des choses extrêmement importantes et je ne peux pas tout couvrir, mais lorsqu'il parle du jugement, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Vous comprenez bien que le salut, c'est croire au nom du Fils unique de Dieu. Si vous ne croyez pas ce que je me suis évertué à vous expliquer jusque-là, eh bien, vous êtes déjà jugé. Le jugement, c'est pour les incrédules. C'est pas moi qui le dis. Mais Jésus dit, le jugement, c'est pour les incrédules. Ah oui, mais tu vas nous envoyer en enfer, c'est ça? Mais comment un Dieu d'amour peut-il m'envoyer en enfer? Le jeune homme riche n'a pas été jugé par Jésus. Le jeune homme riche est parti de lui-même dans la direction qu'il a choisie. parce que ce que Jésus lui demandait de faire, il n'a pas voulu le faire. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Adam et Ève, lorsqu'ils étaient dans le paradis, dans le jardin d'Éden, on va dire, eh bien, ils ont péché. Et c'est leur péché qui les a amenés à déclarer à Dieu : nous nous sommes cachés parce que nous avons eu peur. Ce n'est pas Dieu qui leur a dit de se mettre dans un coin en leur disant « Hors de ma vue parce que vous avez péché !» Adam et Ève sont allés se cacher parce qu'ils avaient peur. Est-ce que vous vous rendez compte ? Avoir peur de Dieu, celui qui n'a fait que du bien, qui vous a chéri, qui vous a porté en lui pendant des années et des années. Et voilà que Dieu entend de la bouche de ses enfants, de ses créations, « Nous avons peur », un mot qui n'existait pas dans la création. Nous avons peur. Est-ce que vous avez peur de ce qui va se passer juste après ? Si vous avez peur de ce qui va se passer juste après, ça n'est pas un jugement de Dieu sur vous. C'est l'effet de ce qu'il y a en vous. L'incrédulité est réellement une rébellion contre Dieu. Ce n'est pas juste « Ah, je choisis de ne pas croire ». C'est une rébellion contre Dieu. Et l'incrédulité nous rend inaptes au royaume de Dieu et à la présence de Dieu. Ce n'est pas que Dieu nous juge, c'est que nos actions nous jugent. Et nous allons là où nos actions nous emmènent. Adam et Ève ont été obligés de sortir du paradis parce qu'ils ne pouvaient plus rester dans la présence de Dieu, à cause de leur rébellion. Ils ont été séparés de Dieu à cause du choix moral qu'ils ont fait. Ils ont donné du crédit au mensonge. Ils ont mis leur foi dans les paroles de Satan. Et en faisant cela, ils ont immédiatement changé de royaume. Et c'est dans ce royaume-là que nous avons été précipités avec Adam et Ève. Non pas parce que Dieu les a jetés dans le royaume des ténèbres, mais parce que leurs actes les ont jugés. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, parce que ce monde est déjà jugé à cause de ses actions et sa rébellion. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. N'est-ce pas ? Et c'est un choix qui est fait, c'est un choix moral qui est fait à chaque fois. Bien sûr, les gens souffrent de ces choix qu'ils font. Et ce sont ces choix-là qui les jugent en permanence. Nous ne sommes pas jugés si nous refusons de croire par ignorance. N'est-ce pas ? Il y a des situations où les gens sont ignorants. C'était le cas du brigand sur la croix. C'était le cas des Romains qui crucifiaient Jésus. C'était le cas, d'une certaine manière, de l'apôtre Paul. Mais si nous avons été enseignés, si nous avons été éclairés sur les vérités de la parole de Dieu, et si nous avons préféré les ténèbres à la lumière, eh bien, cela signifie que nous nous sommes livrés nous-mêmes à Satan. Et c'est ça le jugement. Est-ce que vous savez quand vous allez mourir? Non. Est-ce que vous savez que le après est véritablement réglé? Je ne demande pas, est-ce que vous faites une psychothérapie pour régler votre problème de peur de la mort? C'est, est-ce que véritablement le problème de après est réglé? Vous savez quand on a su que le problème de papy était réglé? Lorsque ces derniers mois, il délirait, eh bien, voilà, c'est un homme qui a vécu dans le catholicisme, et donc il parlait à Marie, enfin, voilà, c'était des Ave Maria en permanence. Et à un moment, Brigitte était avec lui, et moi j'étais pas loin et j'entendais. Et à un moment précis, il a dit Ave, Ave Jésus. Et alors, il y a eu une sorte d'éclaircie, on va dire, dans son esprit. Et manifestement, il y avait un dialogue entre Jésus et lui. Parce qu'il... Alors, j'ai plus tout en tête, mais... Tu n'étais pas... Mais moi, j'entendais... On était dans le couloir. Oui. Donc, et on entendait qu'à un moment, il a dit... je n'oublierai pas. En fait, il recevait quelque chose et il répondait à ce quelque chose. Et c'était tellement fort, et la présence là de Dieu pour moi était tellement forte que moi je me suis mis à pleurer, en fait, parce que on savait que là il se passait quelque chose. Sais-tu ce qui arrivera au moment de ta mort? Est-ce que le salut est bien ancré? J'ai envie de dire, si j'ai réussi à vous faire douter, alors j'ai rempli mon objectif. Parce qu'un enfant de Dieu ne doute pas de son salut. Un enfant de Dieu ne doute pas de son salut. N'est-ce pas? Satan joue sur les doutes. Et vous avez absolument besoin qu'il n'y ait aucun doute sur quoi après la mort. Vous ne pouvez pas vous permettre des hypothèses en ce qui concerne la suite après votre décès. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Je vous ai dit, si je prêche, c'est parce que je veux que des hommes et des femmes viennent à la vie, et pas pour un autre motif. Et si vous avez des doutes, alors je vous en conjure, mettez-vous devant le Seigneur, priez, allez voir un des anciens, allez voir des gens de confiance dans l'Église et priez avec eux pour que vous receviez l'assurance du salut. Voilà. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci parce que à tous ceux qui ont reçu ta parole, elle n'est pas reçue comme un fardeau, mais au contraire comme une délivrance. Et Seigneur, je prie pour tous ceux qui peut-être maintenant ont un fardeau, afin que tu les amènes dans des situations où ils vont vouloir se débarrasser de ce fardeau à tes pieds. Seigneur, merci parce que tu donnes les bons conseils, merci parce que tu ne dors pas, en tout cas tu te réveilles à temps pour nous sortir de notre pétrin, mais en même temps, tu veux nous amener à comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas juste une histoire de croyance ou juste une histoire d'avoir les bonnes références, mais que c'est l'Esprit de Dieu, Christ lui-même, en nous, qui est en mesure de nous donner l'espérance pour le salut à venir, c'est-à-dire la certitude des choses après la mort. Et Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont besoin d'être rassurés, que tu ne les rassures pas, mais que tu leur donnes une conviction profonde qui sera leur assurance éternelle. Dans le nom de Jésus. Amen.